Voici ma série de podcasts consacrée à l'année 1991. Sommaire du premier épisode. La France entre en guerre. Bye bye l'URSS. Bonjour la Game Boy. La flamme olympique débarque en France. Et le retour gagnant de Mylène Farmer.
1991. Ondelatte raconte sur Europe 1.
Le 1er janvier 1991, comme c'est l'usage à l'époque, des artistes présentent leurs vœux aux auditeurs d'Europe. Et Jean-Paul Belmondo, par exemple, craint une année 91 difficile.
Je pense comme tous les Français, c'est vrai, tout ce qu'on entend, ces bruits de guerre, malheureusement, le chômage qui ne régresse pas du tout, puis toutes ces revendications sociales qui sont dans tous les coins, les scandales qui éclatent, les footballeurs qu'on ennuie... Donc ce que je souhaite aux Français, c'est que tout ce qu'on nous prédit n'arrive pas. En premier lieu, qu'il n'y ait pas la guerre dans le Golfe et que des gens n'aillent pas se faire tuer là-bas, ça serait vraiment trop horrible.
Car quelques mois plus tôt, Saddam Hussein, le président irakien, a envahi le richissime et minuscule émirat du Koweït dans le Golfe Persique. Et ce faisant, il s'est mis à dos les Américains. Le président George Bush a déployé des forces en Arabie Saoudite en prévision d'un assaut pour chasser Saddam Hussein du Koweït. La guerre semble inéluctable. Et la grande question est, quand ? Quand aura-t-elle lieu ? Et la France va-t-elle s'engager ou pas aux côtés des États-Unis ? Le 17 janvier 1991, François Mitterrand tranche, l'offensive est proche et les troupes françaises en seront.
Les armes vont parler. Comme je m'y étais engagé, tout ce qu'il était raisonnable d'entreprendre pour la paix l'a été, hélas. Comme je l'ai déclaré il y a quelques heures dans mon message au Parlement, pas un mot, pas un signe n'est venu de l'Irak qui aurait permis d'espérer que la paix, au bout du compte, l'emporterait.
François Mitterrand exhorte les Français à faire bloc autour des soldats. Le 24 février 1991, l'opération Tempête du désert menée par les États-Unis débute et les militaires français y participent donc aux côtés des troupes britanniques. En 96 heures, les Alliés repoussent les Irakiens de Saddam Hussein hors du Koweït.
La plus importante attaque d'hélicoptère de l'histoire militaire a eu lieu aujourd'hui. Les appareils de la 101e division aéroportée américaine ont transporté en 3 heures plus de 2000 hommes, 50 véhicules et des tonnes de carburant et de munitions à 80 km à l'intérieur du territoire irakien. Dans le même temps, 2000 autres soldats de cette division passaient la frontière à bord de camions. C'est ce que rapporte ce soir un journaliste qui est avec cette unité.
À l'occasion de cette guerre, Europa bouleverse sa grille et crée l'émission Europe avec eux. Tous les soirs, entre 22h et 1h du matin, Europe 1 permet aux 12 000 soldats français et à leurs familles de garder le contact. À l'époque, cette entremise est très précieuse parce qu'il n'y a ni Internet, ni réseaux sociaux.
Toujours vos appels au 16 1 42 32 15 15, cette émission qui s'adresse aux soldats du Golfe. Nous confectionnons donc des cassettes à l'aide de cette émission Europe avec eux. Et nous les confions au CIRPA, service de presse de l'armée. C'est ainsi donc que ces cassettes seront entendues par leur destinateur. Et nous avons Lydia tout de suite.
Oui,
bonjour Lydia.
Bonjour.
D'où appelez-vous ?
De Saint-Michel.
Oui, dans quel département ?
De l'Aisne.
D'accord, ça se trouve près d'une grande ville, Lens, Soissons ?
Soissons.
D'accord, alors ce message s'adresse à qui Lydia ?
Au brigadier Badin Ludovic.
Il se trouve où quand il est en France ? Il est basé où ?
Du 4e régiment de dragons de Montmelon.
Qui se trouve donc, c'est un Montmelon, c'est du côté de Reims, Chalon, quoi, par là. D'accord. Alors, quel est votre message ?
Alors, je l'encourage de tout cœur. Je pense beaucoup à lui, ainsi que toute la famille.
Oui.
Et que je l'aime très très fort, et je lui fais plein de gros bisous.
Pour la première fois, une guerre est suivie en direct à la radio et à la télévision. Le climat est en conséquence étouffant, anxiogène. D'autant que le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, craint des attaques terroristes dans l'Hexagone.
Je crois qu'il faut renforcer les mesures de sécurité, ce qui a été fait en France. Il faut en même temps éduquer les populations, les avertir, car le terrorisme, par ses pratiques aveugles, atteint tout le monde. Il est donc nécessaire que les populations soient vigilantes et que chacun se sente responsable. Le terrorisme est une forme de guerre. Il faut donc s'armer contre cette forme-là, particulièrement pernicieuse.
Pour se prémunir d'attaques terroristes, la France active pour la toute première fois le plan Vigipirate. Devant les écoles, par exemple, les parents doivent montrer patte blanche avant d'aller chercher leur chérubin. Pour Europe 1, Pascal Clark se rend dans un établissement parisien.
Nous sommes au lycée Charles de Gaulle, 10e arrondissement de Paris, un lycée qui présente la particularité d'accueillir 300 adolescents et 300 adultes, des tout-petits également, puisqu'une maternelle jouxte l'établissement. Le proviseur, comme tous ses collègues des autres lycées, a reçu un coup de fil du commissariat de police pour un rappel des consignes. Gilbert Longhi.
Attention aux paquets suspects et attention aux intrusions intempestives d'individus inconnus ou inhabituels. Nous avons demandé aux parents de se plier aux contraintes concernant le filtrage des va-et-vient. Mais ce n'est pas un filtrage, c'est un comptage en fait des va-et-vient. On ne peut pas dire qu'il est plus serré, il est plus formalisé qu'à l'accoutumée.
Et inévitablement, dans ces cours d'école, cette guerre, on en parle.
Les enfants jouent, entre guillemets, de la guerre du Golfe. Ils imitent des sirènes pendant les cours de récré. Ils ont des jeux qui imitent les bruits des armes. En revanche, les adolescents pensent, éventuellement s'inquiètent un peu.
Les adolescents sont très concernés par cette guerre hypermédiatisée. Et même au bahut, ils s'informent, grâce à la radio, désormais disponible sur leur baladeur, sur leur Walkman.
On n'utilise plus le Walkman comme pièce morte avec cassette, on utilise le Walkman comme pièce d'information, heure par heure, à toutes les récrés et même dans les intercours.
On en parle, on en discute avec les profs, on demande leur avis.
C'est important pour moi parce que bon, j'ai de la famille qui vit en Israël. Donc ceux qui s'intéressent, bon, j'en parle un petit peu. Ceux qui ne s'intéressent pas, j'en parle pas.
Moi, je dirais que dans le lycée, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent. On en parle moins dans le lycée qu'entre nos parents, quoi.
On dit ce qu'on pense. Bien sûr, chacun a son point de vue là-dessus. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça me fascine, ça dépend.
Est-ce que tu souhaiterais qu'on parle de la guerre du Golfe avec tes professeurs ?
Ben, on en parle déjà avec les professeurs, surtout la prof d'histoire qu'on en parle beaucoup. Hein. Nous expliquer ce qui se passait dans le Golfe, surtout au Koweït avec Saddam Hussein, j'arrive à comprendre.
Et Europe 1 constate que la guerre du Golfe attise parfois les passions à l'école. Comme dans cette classe de 3e d'un collège en ZEP, un professeur d'histoire-géographie raconte comment il a dû expliquer les raisons de cette guerre à sa classe.
Il y avait 7 ou 8 enfants maghrébins, donc sensibles au message de Saddam Hussein. Pas forcément l'aspect dictatorial, hein, mais disons du nationalisme arabe, ont apporté la vision de Saddam Hussein. Et nous avons, avec les autres élèves, essayé de présenter un tableau de ceux qu'on appelait les alliés, d'expliquer pourquoi les uns faisaient la guerre, pourquoi les autres avaient occupé le Koweït. Et je retiendrai toujours cette expression d'un enfant qui a dit est-ce qu'on aurait fait la guerre si le Koweït n'avait pas eu de pétrole ? J'ai essayé d'expliquer que les alliés faisaient la guerre sur d'autres valeurs, mais que la dimension du pétrole n'était pas niée.
C'était George Michael avec Freedom.
1991, On de la raconte sur Europe 1.
En 1991, l'URSS est une fédération de 15 républiques, dont par exemple la Russie, mais aussi l'Arménie, la Lettonie ou l'Ukraine. À sa tête, Mikhail Gorbatchev. En 1991, toutes les républiques d'Union soviétique savent que la fin du Grand Empire soviétique est proche. Ils espèrent tous leur indépendance. Mais avant cela, en juin 1991, Boris Yeltsin est élu président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie.
Avec Boris Yeltsin, c'est pour la première fois en trois quarts de siècle qu'un non-communiste s'installe au Kremlin. Le peuple en a décidé ainsi le 12 juin dans la première élection d'un président de Russie au suffrage universel depuis la révolution d'octobre. La cérémonie ce matin a été brève et solennelle. Invocation d'abord des mânes de l'histoire russe, Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Catherine II, puis la prestation de serment, la main sur le cœur, en quelques phrases sur la liberté et la souveraineté russe. Hymne national russe sur un air de Glinka, bénédiction, et oui, bénédiction par le patriarche Alexis II, et meilleurs vœux enfin de la part de Mikhail Gorbatchev, pour qui l'intronisation de l'ancien rival est, dit-il, le résultat logique des changements démocratiques survenus au sein de la perestroïka. C'est comme si la trêve politique entre les deux hommes avait officiellement été scellée ce matin. Personne ne sait combien de temps il durera, mais une chose est certaine, une page est tournée.
Deux mois plus tard, le 19 août 1991, tous les plans d'indépendance sont mis à mal par une dépêche de l'agence russe TASS.
Le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est inapte au pouvoir. Nous le déchargeons de ses responsabilités. Le vice-président Vladimir Kryutchev prend ses fonctions.
Ça n'est ni plus ni moins qu'un putsch fomenté par la vieille garde communiste contre Gorbatchev et sa politique d'ouverture. Et donc le voilà débarqué et séquestré dans une villa proche de la mer Noire. Les putschistes déclarent l'état d'urgence et ils envoient des blindés à Moscou et diffusent un message sur les ondes.
Les meetings, les manifestations et les marches dans les rues ainsi que les grèves sont interdits, souligne l'arrêté. Le cas échéant, le couvre-feu, la patrouille, le contrôle seront introduits. Le régime douanier et frontalier sera renforcé. Les médias seront contrôlés. Un organisme spécial en est chargé. C'était l'arrêté du comité pour l'état d'urgence.
Mais Boris Yeltsin décide de s'opposer à ce putsch. Le puissant président de la Russie se retranche dans le Parlement de Russie et lance un appel enflammé au peuple soviétique à le suivre.
Boris Yeltsin, organisant la résistance, s'est adressé ce matin à la population. Il a appelé à la désobéissance civile et à la grève générale et des photocopies reprenant l'essentiel de son discours circulent de main en main. Plusieurs milliers de manifestants sont actuellement rassemblés autour du Parlement, dont les accès sont bloqués par les blindés. La foule arrête des camions et demande aux chauffeurs d'utiliser leurs véhicules pour constituer des barrages et protéger le bâtiment. Deux colonnes de blindés ont ainsi été bloquées par les manifestants. On peut lire sur des pancartes brandies par les manifestants « Non au fascisme, oui à Eltsine, grève générale ». Moscou, Marielle Eudes, AFP Audio.
Nous voilà au deuxième jour du putsch. Et la situation est très tendue. Les putschistes semblent prêts à mater la résistance de Yeltsin.
Alors je reviens à l'instant du Parlement de Russie. La situation a monté d'un cran. Des ambulances sont arrivées sur place, une quinzaine d'ambulances. Les gens se préparent à affronter des chars qui pourraient venir très vite sur le Parlement de Russie. Des chaînes humaines se constituent et on demande aux femmes de se déplacer vers les chars afin de parlementer. Ce matin, j'ai même vu des gens qui faisaient des cocktails Molotov. Actuellement, des brigades de civils se constituent et fabriquent des bâtons et on continue à monter les barrages en prenant les matériaux sur les chantiers voisins. De nouveaux camions arrivent pour bloquer la route. Enfin, on sent vraiment que l'atmosphère est de plus en plus tendue.
Et inévitablement, la situation explose.
Les choses bougent dans le mauvais sens à Moscou. D'abord, il y a des tirs sporadiques près du Parlement. Cela s'est passé surtout il y a un petit peu plus d'une heure. Ensuite, il y a ces informations pour l'instant non confirmées d'une première tentative d'assaut du bâtiment défendu par plusieurs milliers de civils moscovites et par quelques centaines de miliciens. Une radio russe indépendante affirme que quelques barricades, les plus éloignées du Parlement, ont été prises par les forces d'intervention soviétiques. Il y a enfin les premières annonces de victimes. Un mort et un blessé, un journaliste étranger, toujours selon cette radio, et un autre mort écrasé par un char sur la grande avenue centrale, l'avenue Kalinin. Ça, c'est selon l'agence RIA, et ça s'est passé à la suite d'affrontements avec des civils.
Après 3 jours, le putsch avorte, tous ses instigateurs sont arrêtés, et Gorbatchev retrouve le Kremlin. Et un homme sort de tout ça renforcé, Boris Yeltsin, bien sûr. Une image a fait le tour du monde. Yeltsin en costard, debout sur un char qui harangue la foule. Suite à ces événements, inévitablement, en septembre 1991, s'engage le démembrement de l'URSS. La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie obtiennent leur indépendance. Et l'URSS finit de s'effondrer le 25 décembre, quand le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, démissionne après 7 années à la tête du bloc soviétique.
Mikhail Gorbatchev aura été le premier et le dernier président de l'Union soviétique sans même avoir jamais été élu à ce poste plus que quelques heures et il abandonnera ce mercredi le bouton du feu nucléaire à Boris Yeltsin. Gorbatchev le sait déjà car on le lui a bien fait savoir, il ne restera pas démuni. Son destin en tant qu'homme politique lui appartient mais le gouvernement russe va l'indemniser pour lui offrir une sortie honorable, à savoir une rente mensuelle de 4000 roubles, à peine 300 francs au marché noir et puis un appartement, une datcha, 2 voitures de fonction et 20 gardes du corps. Il devrait ensuite se retirer pour le nouvel an à Stavropol, en province, dans sa famille. Valérie Meyer, à Moscou pour Europe 1.
L'URSS n'existe plus et la Russie devient indépendante. Et elle reprend les 3/4 du territoire de l'ex-URSS et plus de la moitié de sa population. Au Kremlin, 70 années de communisme s'effondrent, on retire le drapeau soviétique qui est désormais remplacé par le drapeau bleu-blanc-rouge de la Russie. Mais le cap pris par son président, Boris Yeltsin, inquiète.
Mais quand on dit aujourd'hui d'un Boris Yeltsin, attention, ce type est dangereux, c'est un populiste, c'est peut-être quelqu'un qui va imposer une loi de fer, qui va pas tellement tenir compte de ce qu'on dit autour de lui et qui va être une sorte, pourquoi pas, tenez, en poussant les choses jusqu'à la caricature, être un nouveau Staline, ça fait peur à la jeune fille de 22 ans que vous êtes ?
Peur ? Bah, il y a toujours ce risque, Yeltsin ou un autre. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il y a toujours ce risque. On ne peut jamais rien prévoir à l'avance. Évidemment qu'il y a ce risque. Et ça me fait, bien sûr que ça me fait peur.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
Voyons les amis, si vous allez identifier le son le plus entendu de l'année 1991. Ce son, redouté par les adultes et adoré par les enfants, c'est celui de l'ouverture d'une Game Boy. La Game Boy coûte 590 francs. C'est une console de jeux vidéo portable. Elle a été conçue par l'entreprise japonaise Nintendo. Et elle débarque dans l'Hexagone en septembre 1990. Et la Game Boy devient le jeu le plus vendu de l'année.
Les enfants l'aiment jusqu'à l'overdose et les parents n'ont pas le choix. Résultat, 700 000 exemplaires vendus en un peu plus d'un an. Noël aidant, le cap du million devrait être atteint avant la fin de l'année. Game Boy, définition.
C'est un appareil vidéo de poche.
Géraldine Huet vend des jouets aux Galeries Lafayette.
Ça remplace la console vidéo qu'on branche sur la télé. Ça permet d'être complètement autonome, de le mettre dans son sac, dans la poche de son jean. On peut l'écouter comme ça, où il y a un écouteur qui permet de ne pas embêter son environnement.
À sa sortie, le jeu phare de la Game Boy, c'est Tetris, une sorte de puzzle dans lequel il faut encastrer des pièces pour former des lits. Les gamins en raffolent. Et évidemment, Nintendo a tout prévu pour faire passer les parents à la caisse.
Les accessoires se déclinent à souhait. Les cassettes, bien sûr. Les 6-7 ans raffolent de Picsou. Leurs aînés font dans les jeux de stratégie. Les cassettes, mais aussi les boîtes qui permettent de les transporter. Et l'incontournable banane pour porter son Game Boy à la ceinture. Les fabricants ont même pensé aux parents avec une brochure intitulée « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Nintendo ». C'est la marque sans jamais oser le demander. Osez donc la demander, cette brochure, à vos enfants pour Noël.
Face au succès de Nintendo et de sa Game Boy, et aussi de la console de jeu de salon Sega, les autres jouets ont bien du mal à séduire les gamins de 1991.
Nintendo et Sega. En un an, ces deux mots sont entrés comme par effraction dans le vocabulaire des 9-13 ans. Et ils font du même coup les beaux jours des tiroirs-caisses des magasins de jouets français. Particularité de ces deux marques de jeux vidéo, elles sont made in Japan, tiennent la vedette d'un marché du jouet plutôt dépressif, exerce une certaine fascination. La preuve, au rayon jouets de ce grand magasin parisien, les jeux électroniques écrasent les traditionnels jeux de société, jugés ringards.
Pourquoi ? Parce que c'est moderne, c'est un jeu moderne, individuel. C'est comme le Walkman que l'on se met sur les oreilles et on peut écouter sa musique tout seul. Et bien là, on peut jouer tout seul. Eh bien, ça fait partie du même phénomène de mode, où on peut, dans un petit coin, l'enfant, dans sa chambre, à l'école, dans la cour de récréation, eh bien, il joue contre lui-même avec ses jeux vidéo.
L'industrie française du jouet fait grise mine. En revanche, il y a une nouvelle technologie qui, cocorico, s'exporte. La télématique, autrement dit le Minitel. En 1991, ça fait 10 ans que le Minitel de France Télécom existe. Il a déjà séduit 6 millions de Français. Et en 1991, l'Irlande est le premier pays étranger à l'essayer.
L'Irlande aura bientôt un système analogue avec un annuaire électronique et un kiosque. Seule différence, on ne composera pas le 3615, mais un numéro qui commencera par 8. François Olibet, du groupe France Télécom.
Le Minitel s'appellera le Minitel. Il sera donc diffusé par une société dans laquelle France Télécom a donc pris une participation. Cette société s'appelle Minitel Communications Limited. Les Irlandais prévoient 150 000 terminaux, ce qui est considérable compte tenu de la taille de l'Irlande, qui est à peu près 20 fois moins importante que la France.
Le réseau irlandais sera connecté d'ici quelques semaines au réseau français. Un habitant de Dublin pourra par exemple consulter tous les services français, ce qui sera très utile s'il a un voyage à Paris ou à Lyon à préparer. Pour le moment, beaucoup de pays européens ont déjà lancé des programmes télématiques. Il est vrai, moins ambitieux qu'en France, mais les réseaux ne sont pas compatibles entre eux. L'accord avec l'Irlande marque le début d'un réseau télématique transfrontière, comme le téléphone.
Mais l'euphorie retombera vite, parce que le Minitel ne marchera jamais hors de France. Il va se faire damer le pion par Internet. Internet qui, par ailleurs, vient en 1991 de mettre son premier site en ligne qui s'appelle World Wide Web. Une simple page qui renvoie vers des documents qui expliquent comment utiliser le web. Et ce World Wide Web donnera le fameux www. En attendant l'explosion d'Internet, une autre technologie fait fureur en 1991, la télécopie. Le fax, quoi.
Il s'est transmis en France 1 milliard de pages par télécopieur. Et dans le même temps, les Européens ont continué de s'équiper. À tel point d'ailleurs qu'avec 5 millions de terminaux, ils ont dépassé les États-Unis. Mais pour tous les fabricants, l'heure est au coup de feu. Il y a même urgence à mettre en France les bouchées doubles pour faire face à la demande. Elles devraient littéralement exploser en 1992, comme l'explique Philippe Buffon, directeur d'une filiale d'EGT France Télécom.
Les PME ne sont pas encore équipées à plus de 25%. Et puis il y a ce marché extraordinaire des professions libérales, des travailleurs à domicile et des particuliers, c'est-à-dire des lieux de résidence. Conséquence de cela, c'est que le marché va subir, si vous voulez, une deuxième explosion, au même titre que le téléphone il y a quelques dizaines d'années.
Avec la baisse des prix attendue l'an prochain, la France devrait passer le cap des 500 000 télécopieurs en service. Le moins cher des appareils coûte actuellement 3 000 francs.
On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se n'est plus trop grand chose quand on se voit. S'y brûle plus les doigts, et devant tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare. Au nom de tout ce qui nous sépare, sans l'ombre d'un air. reste toute seule quand je pense à tout ce qui nous sépare. Sans plus rien qui répare au nom de tout ce qui nous sépare. Wow.
C'était Gilles Kaplan en 91 avec Tout ce qui nous sépare.
1991, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Le 27 août 1991, à Tokyo, au Japon, se déroulent les championnats du monde d'athlétisme. Et la France a les yeux rivés sur le 400 mètres féminin où une athlète est très attendue, Marie-Josée Perret.
C'est parti pour 400 mètres, Marie-Josée Perret se relève et commence déjà à allonger sa foulée de 2,50 m et elle revient, elle commence à attaquer maintenant Sandra Meyers, l'espagnole naturalisée américaine. Marie-Josée Perret qui a l'ombre d'enjambée à rattraper Sandra Meyers et maintenant rattrape Olga Brezgina. Marie-Josée Perret, quelques efforts maintenant, doit se produire à l'entrée du virage. Elle attaque maintenant Dirmay sous leur numéro 8. Marie-Josée Perret va sortir du virage, du dernier virage en tête, devant Grit Breuer. Breuer qui est en difficulté et Lili Sourwood qui revient. Marie-Josée Perret va s'imposer, Marie-Josée Perret va tenir, Marie-Josée Perret est à 50 mètres d'un titre de champion du monde, le premier pour la France, Marie-Josée Perret est championne du monde en 49 secondes et 15 centièmes, Marie-Josée Perret, l'étoile filante de la Guadeloupe, celle qui avait arrêté l'athlétisme il y a 5 ans, celle qui ne voulait plus entendre parler des stades, Marie-Josée Perret est championne du monde ici à Tokyo, Pierre-Louis Basse, Europe 1.
Pierre-Louis Basse s'égosille à son micro, car l'exploit de Marie-Josée Perret est retentissant.
Ça y est, la course, elle est faite, donc je suis championne du monde et je suis fière de l'être.
Vous n'avez jamais douté.
J'ai vraiment tout donné, j'ai donné tout ce qu'il y avait dans le ventre, et voilà.
Marie-Josée Perret n'a pas cessé de courir depuis samedi. 4 fois 400 mètres. Dément pour une jeune fille aux muscles fragiles et à l'angoisse permanente. Alors vient la magie d'un tour. 49 secondes et 13 centièmes. Nouveau record de France, ont prouvé que cette jeune fille, âgée seulement de 23 ans, avait définitivement pris l'ascendant sur ses rivales les plus sérieuses. À un an des Jeux Olympiques de Barcelone, celle que l'on compare déjà à la légendaire Wilma Rudolph des années 60, a vaincu sa peur et peut rêver d'un titre olympique.
Eh oui, dans un an auront lieu en Espagne les Jeux Olympiques d'été. Mais avant ça, il y aura les Jeux Olympiques d'hiver qui, eux, se dérouleront en France à Albertville. Et en cette fin d'année 1991, c'est l'effervescence. Car mi-décembre, Jean-Claude Killy, le président du comité d'organisation des JO d'Albertville, est à Athènes pour recevoir officiellement la flamme olympique.
Sans la flamme, on ne peut pas organiser les Jeux Olympiques parce qu'ils n'auraient pas le cachet des Grecs. Donc les Grecs nous ont donné maintenant cette capacité d'organiser nos Jeux Olympiques.
Et Jean-Claude Killy, triple médaillé d'or au JO de Grenoble, est très ému par cette remise de la flamme olympique.
J'étais très heureux de voir cette flamme arriver à la vie grâce au soleil de Grèce et être récoltée par les grandes prêtresses qui ont marché sous ces oliviers. C'était absolument superbe. Elle est sortie des frondaisons comme ça, sous les oliviers et à travers cette végétation qui personnalise tellement la Grèce, ces femmes avec les bras nus alors qu'il faisait 3 degrés, et puis leur dignité, cette petite boule de feu qui allait être transférée à la torche qui va l'amener au Concorde. Bon, c'est des moments qui ne repassent pas tous les jours. Hein.
Le lendemain, le président de la République, François Mitterrand, entouré de 300 athlètes, accueille la flamme olympique sur le perron de l'Élysée.
Aux jeunes qui, pendant ces 2 mois, vont se relayer pour porter la flamme, qui passe de main en main comme pour montrer que l'effort de chacun s'intègre dans un vaste mouvement collectif. À vous tous, je souhaite bonne route.
La France ne lésine pas sur les moyens pour accueillir la flamme olympique. Un spectacle de 10 000 figurants a lieu sur les Champs-Élysées.
4 tableaux ont été reconstitués et au sommet des Champs-Élysées, c'est-à-dire au niveau de la place de l'Étoile, seront réunis de très nombreux champions de l'histoire du sport français qui attendront cette flamme olympique. Et quand le porteur arrivera sur la place de l'Étoile, en compagnie de M. Jacques Chirac et de Jean-Claude Killy et Michel Barnier, c'est Patrick Dupont, le danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui embrasera la place de l'Étoile, ensuite l'ensemble de l'avenue des Champs-Élysées, avant qu'un superbe feu d'artifice ne soit tiré dans le ciel de Paris. Il y aura notamment dans le ciel la reconstitution des 5 anneaux olympiques.
Et après, la flamme quitte la capitale pour parcourir 5500 km dans l'Hexagone avant d'illuminer le ciel d'Albertville. Pendant 2 mois, elle est portée par des centaines et des centaines de relayeurs et rencontre chaque jour une ferveur populaire très enthousiaste.
Lorsqu'un mauvais coup de vent venait éteindre le flambeau, un escorteur se précipitait vers la voiture où est conservé dans une lampe de mineur le feu originel recueilli à Olympie et ainsi l'on pouvait rallumer le flambeau qui continuait sa route. À chaque kilomètre, un nouveau porteur, le visage illuminé de bonheur, prenait le relais et la foule partageait ce bonheur.
Il y avait 1800 candidats pour porter la flamme dans le département du Nord, 120 seulement ont été élus. Le relais olympique a donc parcouru l'agglomération pour parvenir vers 19h devant la mairie d'Odille. Et puis la flamme s'est faite ensuite toute petite pour passer la nuit dans une lampe de mineur, bien sûr. Pierre Mauroy assistait à la cérémonie et vous allez l'entendre, l'idéal olympique lui paraît de circonstance pour l'année politique.
Eh bien ça signifie que pour l'année 92, tous les hommes politiques doivent sans doute se rapprocher de l'idéal olympique, c'est-à-dire la paix, bien sûr. Ah, la loyauté, la discipline collective, ben, ça c'est peut-être des efforts à faire sur ce plan-là. Quant à la gloire, alors ça, vous savez, ça ne vient que quand les concitoyens et concitoyennes le veulent bien.
1991, on de la traconte sur Europe 1.
En 1991, on aime bien se dire bonjour comme ça.
Salut, tu vas bien?
Cette expression est l'œuvre du trio d'humoristes Les Inconnus, irrésistibles et au sommet de leur succès en 1991. Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan qui ont leur émission sur Antenne 2, la télé des Inconnus. Des sketchs, mais pas que. Ils chantent aussi, toujours en brocardant les modes du moment.
Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry, Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit.
As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut en flûte, crante en...
Chier!
Hôtel Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Hôtel Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Avec ce titre rap, ils pastichent une certaine bourgeoisie de l'Ouest Paris. Leur titre Auteuil Neuilly Passy reste 4 semaines à la première place du top 50. Ça devient même un petit phénomène de société. Et le 12 mai 91, les Inconnus sont invités dans la très sérieuse émission politique de TF1, 7 sur 7, présentée par Anne Sinclair tous les dimanches soirs.
C'est venu comme ça, c'est-à-dire en tournée, on est entouré de jeunes qui sont complètement enrapisés, c'est-à-dire vraiment le rap, c'est vraiment un phénomène qui existe d'ailleurs depuis longtemps, mais alors depuis 2 ans, c'est incroyable. Et puis bon, ça nous est venu donc de faire le premier C'est ton destin, de voir les keufs, la meuf.
C'est vrai qu'on a déliré entre nous avant en fait.
Avec le verlan qui fait partie du langage des jeunes. Et puis après on s'est dit tiens, si on faisait un rap sur les nantis, les types qui avaient tout pour vivre. Puis en fait, c'est vrai que ça peut exister ça, parce que quand on a tout pour vivre, parfois on peut toujours trouver une raison d'être mécontent.
On est une minorité, ouais, exclue.
Salut, tu vas bien? Ça fait, paraît-il, en effet très fort un peu partout.
En 1991, le titre Auteuil Neuilly Passy se vend à 428 000 exemplaires. Mais il y a un hic. Pour la base musicale du morceau, les Inconnus ont pioché dans la discographie d'un jazzman qui s'appelle Maceo Parker. Il Il est évidemment toujours possible de sampler un morceau, mais encore faut-il demander l'autorisation à son auteur, ce que les inconnus n'ont pas fait. Pour éviter un procès, les deux parties s'arrangent et les droits du titre reviendront finalement au jazzman Maceo Parker. Le plus grand carton musical de l'année 91 est signé Mylène Farmer. Le 8 avril 91, Jean-Pierre Elkabbach la reçoit sur Europe 1 et c'est un sacré scoop parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas parlé public.
8h23, Jean-Pierre Elkabbach avec Mylène Farmer.
Bonjour.
Bonjour.
C'est une sorte de réapparition, peut-être avec le printemps, bien oui. Que vous ne soyez pas là avec chaque printemps. Ça fait combien de temps que vous êtes absente ?
Je crois que ça fait un peu plus de 2 ans maintenant.
Qu'est-ce que vous faites, Mylène Farmer, de vos absences ?
J'ai redécouvert des auteurs que j'avais déjà lus, j'ai découvert des auteurs. J'ai lu à peu près tout de Suran, je crois. Quelqu'un qui m'a bouleversée, passionnée et fait un peu peur aussi. Sinon, j'ai découvert la peinture, le monde de la peinture. Je suis allée également à l'étranger pour faire un peu de promotion. Et moi, voilà, c'est à peu près tout.
C'est-à-dire
que
vous avez vécu, mais vous n'étiez pas dans le milieu de la chanson. Vous écriviez,
oui.
Mais vous ne faisiez pas de scène.
Je ne suis jamais dans le milieu de la chanson, finalement, si ce n'est pour, effectivement, ou faire un peu de promotion et la scène et des télévisions. Mais je suis très, très écartée de ce monde.
Ce troisième album de Mylène Farmer, intitulé « L'autre », s'écoule à 2 millions de copies. C'est un record absolu pour une artiste féminine francophone. Ce nouvel album de Mylène Farmer est encore plus teinté de mélancolie que les précédents. La preuve avec son tube, Désenchanté. C'était Mylène Farmer avec son tube de 1991, Désenchanté, qui reste 9 semaines en tête du top 50. Normal, d'une certaine manière, car à travers ce titre, Mylène Farmer défend un sentiment assez partagé par la France de l'époque, le pessimisme.
Je suis totalement pessimiste, sans illusion, c'est vrai, pratiquement, quant à la vie et ses lendemains, mais... tristesse, elle est profonde, mais je n'essaie pas de l'expliquer, en tout cas, ni de la porter plus, sur le visage.
Plus ou, ah non, la portez pas, mais plus ou moins qu'à 15 ans ou à 20 ans.
Plus, puisque je saisis un peu plus de choses qu'alors. Oui,
et vous avez le sentiment que les jeunes qui ont cet âge-là sont comme ça, à leur manière, chacun tâtonnant et cherchant, en quête d'eux-mêmes? Ou c'est vous, et vous racontez, vous
écrivez? Je préfère, moi, me raconter par rapport à une génération que je suppose désenchantée. Maintenant, je crois que les jeunes, comme on les appelle aujourd'hui, sont assez mal dans leur peau, en général. Oui.
C'était le spleen de Mylène Farmer qui conclut ce premier épisode consacré à l'année 1991. Le numéro d'aujourd'hui était concocté avec Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vassot. La suite de l'exploration de l'année 1991 dans le deuxième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.